Le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO salue la mémoire d'Étienne Tshisekedi, le sphinx de l'IMET, s'est éteint mercredi dernier à Bruxelles. La mission onusienne invite donc les acteurs politiques congolais à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. 3,3 milliards de dollars américains, c'est en tout cas le fonds dont a besoin l'UNICEF pour venir en aide à au moins 48 millions d'enfants victimes de la malnutrition et des catastrophes naturelles dans le monde. Quelle est la part de la RDC dans cet appel de fonds? Mais surtout, comment mener le plaidoyer pour que la voix de ce pays soit entendue des donateurs? La chef des urgences UNICEF RDC répondra à ces interrogations. Elle est l'invitée de ce dimanche. Enfin, les maladies tropicales négligées, on en parle également dans cette édition. La RDC a fait des efforts considérables, notamment dans la lutte contre la trypanosomiasis humaine africaine, ou ce qu'on appelle la maladie du sommeil. Des essais thérapeutiques sont en cours sur l'échelle mondiale. Objectif, combattre efficacement, voire éradiquer la maladie du sommeil.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. On le disait tout à l'heure, la grande actualité de la semaine, c'est en tout cas la disparition d'Étienne Tshisekedi, mercredi dernier à Bruxelles. Et la MONUSCO a réagi à la perte de ce grand homme politique congolais. Jean-Pierre Lally, vous êtes là pour nous en parler. Bonjour, oui, bonjour. Et bienvenue dans ce studio.
Bonjour Tina, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Dans un communiqué publié jeudi, Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, exprime premièrement en son nom personnel, mais aussi du système des Nations Unies en RDC, ses profondes et sincères condoléances à la famille du disparu, au gouvernement de la RDC et au peuple congolais tout entier. Je salue son importante contribution dans la promotion de la démocratie en RDC, déclare Maman Sambo Sidikou. Deuxièmement, concernant le processus démocratique dans lequel les acteurs politiques congolais se sont engagés, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies invitent ce dernier à honorer la mémoire des illustres disparus. Comment? C'est en s'engageant résolument dans la mise en œuvre totale de l'accord politique du 31 décembre signé sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Il lance par ailleurs un appel au calme et à la retenue à tous les acteurs politiques afin de poursuivre les négociations et aboutir à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et paisibles. Alors, Tina, je vous propose d'écouter Maman Sidikou qui s'exprima au micro de notre consoeur Denise Lukeso. C'était à son arrivée à Goma, quelques heures avant la publication du communiqué.
D'abord que c'est une grande perte, non seulement pour le Congo, le peuple congolais, mais aussi pour tous les peuples d'Afrique, parce que le président Tshisekedi est connu pour être un grand combattant de la liberté. C'est une grande perte pour nous. Je le connaissais personnellement, je suis allé le voir plusieurs fois. Il m'appelait très gentiment grand chef. Il va nous manquer. Hier soir, j'ai parlé avec son fils, Félix Tshisekedi. Je lui ai présenté nos condoléances à lui, à la famille, à leurs amis, à leurs militants. Mais nous n'avons pas fait de déclaration officielle encore parce que cela relève d'abord du gouvernement congolais. Le secrétaire général des Nations Unies va également certainement, très certainement faire un communiqué pour saluer sa mémoire et pour appeler les Congolais à se retrouver. Vous savez très bien que le président Tshisekedi devait être, il était désigné par l'accord du 31 décembre comme le président du comité suivi de l'accord. Sur ce plan aussi, il va nous manquer.
Et vous pensez que cette disparition peut avoir un impact sur les assises de la CENCO?
Il faut se dire que les Congolais savent quand même ce qu'ils font, qu'ils veulent la paix pour leur pays, qu'ils veulent la réconciliation, qu'ils veulent avancer vers des élections visibles, crédibles et transparentes, et que les uns et les autres s'arrangeront pour que cela n'ait pas d'impact négatif. C'est ce que je pense à ce moment.
Pour sa part, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djenit, estime que le grand hommage que les Congolais peuvent rendre à Étienne Tshisekedi, c'est de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, c'est-à-dire le dialogue.
Merci Jean-Pierre Lally à Ikoko pour tous ces éléments. Puisque nous parlons du dialogue, restons-y donc pour évoquer cette interpellation de la MONUSCO aux acteurs politiques congolais auxquels elle demande d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la signature de l'accord qui intègre tous les aspects spéciaux de l'accord du 31 décembre. Allusion faite notamment au blocage observé actuellement autour de la nomination d'un Premier ministre. Alors je vous propose d'écouter à ce sujet Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, qui intervenait ce mercredi à partir de Goma au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Et ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
On peut dire que plus des trois quarts de cet accord, des problèmes qui se posaient entre les différents protagonistes à cet accord du 31 décembre qui a été signé sous la médiation de la CENCO, la plus grande partie du travail a été fait. Aujourd'hui, certains points de blocage existent. Et d'ailleurs, les évêques de la CENCO qui facilitaient ce travail se sont rendus à Genève. Et avant même de partir aussi, ils ont réitéré leur engagement à poursuivre la facilitation, mais aussi ils ont demandé à tous les acteurs congolais, particulièrement ceux de la majorité et ceux de l'opposition, à poursuivre ce dialogue de manière bilatérale. Le temps ne joue pas en notre faveur. Courageons et nous interpellons les acteurs politiques pour que très rapidement ils aillent vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la signature définitive de cet accord en tenant compte des arrangements spéciaux qui vont être ajoutés à cet accord-là.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Les maladies tropicales négligées, dont la trypanosomiase ou maladie du sommeil, ont donc été au centre de la matinée organisée par le ministère de la Santé à Kinshasa. C'était dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire de la déclaration de Londres. Alors à cette occasion, les intervenants ont montré les progrès réalisés tant dans la recherche thérapeutique que dans la prise en charge des patients en RDC. Docteur Justin Massimango, directeur adjoint au programme national de lutte contre la trypanosomiase, est interrogé ici par Jean-Pierre Elali Koko.
Docteur Justin Massimango Mbaruku, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du programme national de lutte contre la trypanosomiase en République démocratique du Congo. Alors, nous venons d'assister à cette cérémonie qui cadre avec le 5e anniversaire de la lutte contre cette maladie en Afrique. Alors, quel est l'état épidémiologique de la trypanosomiase humaine africaine
ou
maladie du sommeil en République démocratique du Congo?
Merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez suivi dans la phase, la trypanosomiase humaine et africaine est une maladie qui existe en RDC et qui date depuis l'époque coloniale et qui, avant l'indépendance, cette maladie a été presque éliminée. Après l'indépendance, il y a eu réapparition de cette maladie à cause de tout ce qu'il y a eu comme relâchement de la surveillance épidémiologique et entre-temps lié aussi aux troubles socio-politiques qui n'ont pas permis que les activités de lutte puissent se poursuivre normalement. C'est comme ça que dans deux années 1990, on a reconnu cette réapparition de cette maladie qui en principe en 1996, la République démocratique du Congo a déclaré plus de 30 000 nouveaux cas, mais à ce jour, et après la lutte et l'appui des différents partenaires, la maladie est en train d'être maîtrisée et en 2015, nous sommes arrivés à déclarer 3 253 malades, alors que en 2006, on était à plus de 8 000 nouveaux cas. Donc, la lutte continue et la diminution est en train de se sentir au fur et à mesure.
Dans ces chiffres-là, quelles sont les provinces les plus touchées, docteur?
Les provinces les plus touchées, c'est l'ancienne province de Bandundu, où on retrouve plus de 50% de cas qui sont diagnostiqués en RDC. Et actuellement, avec les trois provinces qui sont neuves de cette province, ces trois provinces sont endémiques parce qu'il y a deux cas partout dans ces provinces-là.
À quoi est due tout simplement la présence de tout cela dans la province de Bandundu?
Cette maladie, ce n'était pas seulement dans le Bandundu. C'est une maladie qui, en principe, en RDC, se retrouvait dans neuf anciennes provinces sur le 11 qui existaient avant le découpage. En dehors du Nord Kivu et du Sud Kivu, toutes les autres provinces sont endémiques de la THA. Mais la lutte a été menée partout, mais il y a persistance dans le Bandundu. Il y a quand même une diminution par rapport à des années 90. On arrivait seulement pour Bandundu à plus de 10 000 nouveaux cas, mais à ce jour, on est à moins de 2 000 cas par an.
Oui, c'est pour dire que la lutte est bien menée avec l'apport bien sûr de partenaires. Et avec qui vous travaillez pour, dans le cadre de cette lutte?
Dans le cadre de cette lutte, nous bénéficions des appuis de différents partenaires. Je citerai entre autres l'OMS qui nous appuie dans la lutte et qui nous apporte le médicament approprié que nous appelons le trypanocyte. Il y a le gouvernement belge dont son appui passe par l'Institut de médecine tropicale qui nous appuie dans cette lutte. Il y a DNDi qui nous appuie aussi dans cette lutte, surtout beaucoup plus dans des essais cliniques pour trouver de nouvelles molécules de prise en charge par rapport à cette maladie. Et il y a aussi PAT, avec le financement de Bill Gates, qui appuie aussi le dépistage actif et le dépistage passif dans le cadre de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine.
Oui, docteur Justin, nous sommes en 2017. Vous avez épinglé les efforts qui sont réalisés dans l'élimination de cette maladie. Et quels sont pour l'instant les défis à relever par rapport à la prise en charge thérapeutique et aussi par rapport à la prévention?
Je commencerai tout d'abord par rapport au dépistage même de cas, avant de passer à la prise en charge thérapeutique. Par rapport au dépistage actif, il y a un problème qui est lié à la couverture, qui est faible, parce que avec le moyen que dispose le programme avec ses partenaires, le programme n'arrive à couvrir que 20% de sa couverture de la population à risque. Ce qui fait que c'est un défi qu'il faut de moyens conséquents pour arriver à augmenter la couverture de la population à risque.
Et sur le plan thérapeutique, oui.
Par rapport à la prise en charge thérapeutique, il y a des efforts qui sont en train d'être menés, parce que avant cette maladie, il n'avait pas de molécules de prise en charge. Mais actuellement, avec l'appui de DNDi, qui est impliqué dans les essais cliniques,
DNDi, c'est quoi?
DNDi, c'est une organisation suisse qui, en principe, est en train de mener des essais cliniques dans le cadre de trouver de nouvelles molécules de traitement de prise en charge. Et à ce jour, il y a des essais cliniques sur une molécule qui, en principe, se donnera seulement en une seule dose, constituée seulement d'un seul comprimé. Et nous pensons que d'ici 2020, si cette molécule se concrétise, nous pouvons aller tout droit vers l'élimination de cette maladie comme problème de santé publique en RDC.
Docteur Massimango, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
La situation humanitaire dans le sud-est de la République démocratique du Congo est restée critique en 2016, malgré les efforts consentis par les acteurs humanitaires pour répondre aux besoins croissants de dizaines de milliers de personnes. C'est en tout cas ce que révèle OCHA dans son dernier bulletin. C'est précisément dans les provinces du Olomami, Haut-Katanga et Lualaba. Au sud-ouest du territoire Mitwaba par exemple, la province du Haut-Katanga, près de 25 attaques armées ont été enregistrées dans plusieurs villages, provoquant ainsi mort d'hommes et plus de 35 000 personnes déplacées. 75 détenus ont été libérés à la prison centrale de Bounia samedi 27 janvier. C'était au cours d'une cérémonie marquant le lancement d'un vaste programme de désengorgement des prisons centrales de Kinshasa, du Nord et Sud-Kivu, mais également de l'Ituri. En effet, la prison centrale de Bounia comptait fin 2016 un effectif de 1184 prisonniers, dont 36 femmes, soit un nombre dépassant sa capacité d'accueil estimée à seulement 300 personnes. Et depuis 2014, le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, à travers le programme pluriannuel d'appui à la justice, PPAJ, accompagne le gouvernement de la RDC dans le renforcement de la chaîne pénale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'UNICEF a besoin de 3,3 milliards de dollars américains en 2017 pour une action humanitaire en faveur des enfants dans le monde. Les besoins en urgence pour les enfants en République démocratique du Congo sont estimés à près de 120 millions de dollars américains. Mais la voix de la RDC risque d'être oubliée dans cet appel de fonds, alors que le pays a autant d'urgence qu'ailleurs. D'où l'importance d'un plaidoyer fort auprès des donateurs. C'est en tout cas ce qu'estime l'UNICEF RDC. Madame Aude Rigaud, chef des urgences à l'UNICEF, est notre invitée. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Madame Aude Rigaud, bonjour. L'UNICEF dit avoir besoin de 3,3 milliards de dollars américains en 2017 pour sauver la vie des 48 millions d'enfants dans le monde. Qu'est-ce qui motive justement cet appel des fonds aujourd'hui?
Oui, en effet, l'UNICEF vient de lancer son appel à l'action humanitaire pour les enfants au niveau global, sur base du fait que un quart des enfants dans le monde vivent dans des pays ravagés par des conflits ou des catastrophes naturelles. Et à ce titre, l'UNICEF fait un appel de 3,3 milliards de dollars pour couvrir 45 pays.
Mais quels sont les pays les plus concernés par cette assistance d'urgence marquée par les conflits et aussi les catastrophes naturelles?
Alors nous avons la République arabe syrienne et bien sûr la sous-région, l'Irak, le Nigeria avec le bassin du Tchad, le Soudan du Sud et l'Afghanistan.
Donc ce sont ces pays-là qui sont les plus concernés et le risque est que la RDC risque d'être oubliée. On sait que les pays donateurs s'occupent beaucoup plus des pays dont ils sont originaires aussi, notamment la Syrie, la crise en Syrie. La crainte est que la RDC risque d'être oubliée dans tout ça parce que dans ces pays, il y a aussi des urgences, madame.
Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que l'UNICEF, en RDC, est là aujourd'hui. C'est pour aussi parler des besoins humanitaires dans ce pays. Si nous nous référons au plan d'action, au plan de réponse humanitaire qui est préparé conjointement avec OCHA et les autres acteurs humanitaires, cette année, on aura plus de 7 millions de personnes qui seront affectées en République démocratique du Congo, notamment donc 4,4 millions d'enfants.
Donc, c'est une préoccupation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, disons, les urgences en RDC puisse être prise en compte par la communauté internationale?
Effectivement, je pense qu'il faut surtout parler de la RDC et présenter les besoins tels qu'ils le sont. Je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait à ce titre d'analyse. On est à peu près à 2,1 millions de personnes déplacées dans la partie est et sud du pays. Et à ce titre, nous devons démontrer qu'il ne faut pas laisser ces personnes derrière. La RDC est également un pays touché par la malnutrition aiguë sévère et on a plus de 2 millions d'enfants affectés et je pense qu'il est important qu'on passe le message envers notamment les gouvernements donateurs, également des personnes qui pourraient influencer et être convaincues qu'il faut continuer à soutenir la RDC dans son action humanitaire.
Donc il faut un plaidoyer.
Il faut un plaidoyer fort pour que les enfants congolais ne soient pas oubliés parmi les autres crises. On sait qu'il y a beaucoup de crises dans le monde, mais celle-là ne doit pas rester sous silence.
Voilà. Et Madame Aude, est-ce que l'UNICEF et ses partenaires ont des politiques stratégiques de prévention des situations d'urgence? C'est mieux de prévenir que de chercher des fonds qui sont parfois hypothétiques et qui ne viennent pas toujours.
Tout à fait. Et je pense qu'il y a un grand travail qui est réalisé, notamment pour la lutte contre la malnutrition, la lutte contre les épidémies, afin de prévenir et d'éviter que l'épidémie soit là. Il y a notamment des campagnes de vaccination. Il y a tout un travail qui est fait avec les ministères, que ce soit le ministère de la Santé, même le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, pour justement avoir des meilleurs mécanismes d'alerte, de former, de préparer les personnes sur le terrain pour, si il y avait éventuellement un problème, répondre le plus rapidement possible, éviter que la crise s'accroît.
Mais alors, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, j'allais dire, c'est imprévisible, n'est-ce pas?
C'est tout à fait imprévisible, mais sur les catastrophes naturelles, il est vrai que chaque année, régulièrement, la RDC fait face à des inondations. Il y a certainement des actions de long terme qu'il faille réaliser pour pouvoir prévenir l'impact de ces inondations, mais en même temps, il est possible aussi de travailler avec les communautés et les autorités pour pouvoir mieux prévenir venir, notamment dans les zones qui sont à risque d'inondation.
Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan sur les urgences en 2016 et quelles sont les actions qui ont été menées en faveur des enfants l'année passée?
En 2016, en fait, l'UNICEF a réussi à obtenir, à financer à 42% en fait son appel humanitaire qu'elle avait réalisé en 2016, qui s'élevait à 130 millions de dollars. Cette année, cet appel est autour de 120 millions de dollars. Mais elle a quand même réussi, grâce à ça, à atteindre 2,3 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire. Et par exemple, à titre d'exemple, ça a été 1,7 million de personnes qui ont été affectées par le choléra. Et ça a été également à travers leur mécanisme de réponse rapide au mouvement de population, 1,2 million de personnes qui ont été assistées, qui ont reçu une assistance d'urgence en santé, en éducation, en eau, hygiène et assainissement, et également avec des articles essentiels ménagers.
On vous parlait tout à l'heure du choléra, mais il y a aussi la rougeole et la malnutrition qui continuent à menacer la vie de nombreux enfants en République démocratique du Congo. Quelles sont les priorités pour l'UNICEF cette année? Et on peut parler en termes de défis.
Effectivement, la RDC fait face à différentes crises qui demandent différents moyens et outils pour pouvoir être confrontés. L'UNICEF, dans tous les cas, désire adresser les problèmes pour qui touchent les enfants. Et notre point d'entrée est vraiment les enfants. À partir du moment où les enfants meurent en raison de la rougeole ou sont à risque de protection, par exemple, en raison des mouvements de population, ça restera des priorités de l'UNICEF. Et pour ce faire, il faut vraiment que l'on puisse pouvoir mobiliser un minimum de ressources afin que les mécanismes de protection et de réponse pour tous ces enfants et bien sûr leur mère et leur père puissent être disponibles.
Alors, un dernier message peut-être à l'égard des bailleurs de fonds, des donateurs et aussi peut-être au gouvernement congolais et à tous les acteurs qui sont engagés dans la défense et la protection des enfants.
Je pense qu'il est important de ne pas oublier la RDC. Nous savons qu'il y a de multiples crises dans le monde, mais la RDC est actuellement dans une situation où il est important de ne pas oublier les enfants congolais. Nous avons besoin de tous. C'est en partenariat et tous ensemble avec le gouvernement, avec les acteurs de la société civile, les organisations internationales et les agences des Nations Unies qu'on pourra ensemble aider et réduire en fait l'impact de ces crises sur la population congolaise.
Je rappelle aux auditeurs que nous recevions Mme Aude Plorigo, elle est chef des urgences à l'UNICEF RDC. Madame, magazine des Nations Unies de Radio Capi vous remercie.
Merci.
Burundais ont été rapatriés cette semaine par les autorités congolaises sous la supervision de la commission conjointe de vérification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et sous le regard du Haut Commissariat pour les réfugiés, mais également du Comité international de la Croix-Rouge, un CICR. Annonce faite en tout cas mercredi dernier au cours de la conférence hebdo des Nations Unies. Andreas Kirchhoff, porte-parole du SR en RDC, parle ici des circonstances de ce rapatriement et ses propos ont été recueillis encore une fois, par Jean-Pierre Elali, ICOCO.
Le HCR était concerné par une sous-groupe de ces groupes de plus de 190 personnes qui allaient être renvoyées, notamment les personnes enregistrées comme réfugiées. Nous avons envoyé une équipe à la frontière qui a constaté que les personnes arrivées à la frontière pour préparer le renvoi. Nous sommes contents que suite aux démarches avec les autorités, il y a 12 personnes qui sont reconnues comme réfugiées qui se trouvent actuellement au territoire congolais qui, à notre compréhension, ne vont pas être refoulées. Nous avons aussi constaté qu'il y avait 2 réfugiés qui sont rentrés hier, mais qui avaient dit qu'ils veulent rentrer au Burundi. En plus, il y avait un groupe de 15 personnes qui auraient été enregistrées comme réfugiées en Rwanda, selon les autorités congolaises, et qui auraient été voulu rejoindre un groupe armé. Ces personnes ont aussi été déportées. Il y avait en plus 3 personnes qui apparemment voulaient demander l'asile en RDC, mais qui n'ont pas eu la possibilité. Cette action des autorités congolaises aurait certainement, par rapport à ces personnes, pu mieux gérer, avec implication des différents acteurs pour assurer que les personnes qui ont besoin de la protection internationale obtiennent la protection internationale.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Existe-t-il vraiment un plan B de la CINCO et donc une copie serait à la MONUSCO? C'est ça notre question du jour. Suivez la question et puis la réponse de Monsieur Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO.
Jean-Pierre Caillé, rtg@l'avenir.org. Une question sur une révélation qui empoisonne la vie politique. Un document, enfin confidentiel de la CINCO qui aurait été transmis à la MONUSCO et aux autres institutions internationales dans lesquelles les évêques évoquaient ou détaillaient leur fameux plan B qui consisterait, selon le courrier, à mettre en cas de désaccord, en négociation, mettre tout le monde des côtés, opposition, majorité, confier la direction de la transition à la CINCO. Je voudrais savoir si la MONUSCO a reçu ces documents parce que vous avez été nommément cité et quelle réponse avez-vous réservé à son contenu.
Par habitude et de coutume au niveau des Nations Unies, nous ne commentons pas sur les fuites de documents car ce sont des fuites. Et qu'est-ce qui vous dit que la fuite est vraiment réelle? Est-ce que c'est le bon documents, etc. Donc, par habitude et par, j'allais dire, tradition, les Nations Unies ne commandent pas sur des fuites de documents. Donc, je ne peux pas infirmer ou confirmer tout ce que vous dites. Peut-être que ces documents n'existent même pas. Nous avons entendu parler du plan B comme beaucoup de gens, mais j'ai pas de documents, nous n'avons pas de documents qui étaient exactement ce plan B-là, en tout cas, notre possession.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Nana Bolodjaya Leomoto, je suis mariée et mère de 4 enfants, dont des jumeaux. Je suis journaliste avec une licence en édition multimédia, même si j'ai toujours exercé comme animatrice radio. Parce que ce que je pourrais peut-être souligner ici, c'est que j'ai commencé à travailler avant d'intégrer l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ça, c'était en 2001. Donc, ça signifie que je suis dans le métier depuis à peu près 15 ans, par là. Alors, au sein de la MONUSCO, plus précisément la Radio Capi, je suis en charge de l'émission Découverte. C'est une émission de 3 heures diffusée en mi-journée sur toute la semaine, c'est-à-dire que l'émission passe de lundi à vendredi de 13h à 16h sur Radio Capi, sur l'antenne nationale. Et mon travail consiste à préparer l'émission, les interviews, les sujets, évidemment avec l'appui de certains collègues après concertation ou réunion d'équipe. Alors, depuis combien de temps? Je suis arrivée à Radio Capi en septembre 2004. J'ai fait plusieurs émissions, mais celle que je pense qui m'a réellement propulsée, c'était La Matinale, l'émission d'ailleurs pour laquelle j'avais été engagée ici en 2004. Et j'ai fait La Matinale durant 3 ans, de 2004 à 2007. Et bien plus tard, j'ai présenté l'émission Zigzag. Alors mes tâches quotidiennes, comme je l'ai dit, j'anime l'émission de la mi-journée, c'est de préparer les sujets, préparer les interviews, choisir les invités, préparer les micros. Dans notre jargon, quand on dit préparer les micros, c'est-à-dire préparer les annonces et les désannonces des chansons, savoir un peu comment introduire une belle désannonce après une chanson. Donc c'est ça qu'on appelle préparer les micros. Alors comment est-ce que je gère mon temps libre? C'est un peu parfois difficile, mais sinon je suis principalement occupée dans ma vie de famille, c'est-à-dire avec mes enfants et mon époux. Après il y a la famille élargie, mes parents, mes frères et sœurs, et puis il y a aussi les amis. Je m'occupe aussi dans les activités récréatives et sportives avec les enfants. Et en dehors de ça, donc une vie sociale normale, sortir, boire, manger, rigoler, un peu se détendre, parce que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très important pour l'épanouissement d'un être humain. Mes préférences, musique, sport, je suis d'abord très très fan de la musique congolaise. J'adore la musique, j'aime beaucoup la rumba congolaise. Je suis fan de notre musique et très fière de notre culture, la culture congolaise, tellement je la trouve diversifiée, mais à la fois c'est une musique qui fédère. ça veut dire où qu'on soit au Congo, quand on écoute, on sait que ça vient des Mongos, ça vient des Luba, ça vient des Nandé, ça vient des Swahili, et tout ça, c'est ça qui crée l'identité culturelle congolaise, et ça, je trouve que c'est très magique. Et en dehors de ça, j'aime aussi tout le genre de musique, j'aime le slow, j'aime le R&B, j'aime le rap, je suis fan de bonne musique, j'aime la salsa et j'adore danser aussi. Pour le sport, je suis fan de natation, même si je ne pratique pas beaucoup. Sinon, la marche, le footing, je pense aussi que c'est des choses qui sont très bien pour notre condition physique. Ouf, les projets d'avenir, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup, mais il y a deux projets qui me prennent principalement à cœur depuis à peu près 6 mois. C'est que j'aimerais développer dans notre pays le marketing politique d'abord et la promotion de nos valeurs et coutumes congolaises. Donc ce sont des projets, je l'espère, que je pourrai réaliser dans un avenir très proche. Voilà mes projets.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous et non le moindre à retenir pour la semaine qui commence. Le 12 février, nous vous le rappelons, c'est la journée internationale des enfants soldats ou enfants enrôlés dans les groupes armés. C'est déjà la fin de cette édition du magazine des Nations Unies. On vous dit merci de nous avoir suivis. Ce magazine a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, qui est également au reportage. Cette édition a connu le concours de Denise Loukieto. Nous lui faisons un petit coucou depuis Goma. Nous avons un bénéfice également des services de Monsieur Héritier Sidiakel à la technique. Moi, c'est Tina Salama, je vous l'ai présenté. Alors, si vous voulez le réécouter en tout cas, c'est très simple. Vous allez visiter notre site internet. Si vous ne connaissez pas l'adresse, eh ben, c'est le www.radiotapi.net. On vous dit encore une fois merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mag UN. Bon dimanche chez vous. À très bientôt. Ciao.